Je vous présente Jean-Louis Curnel, deuxième de liste à Roubaix. Ouvrier depuis son plus jeune âge, d'abord dans la métallurgie, puis après son licenciement dans le bâtiment, Jean-Louis s'est battu toute sa vie contre l'exploitation capitaliste. De toutes les grèves, Jean-Louis sait ce que cela veut dire, la force des travailleurs, et combien elle peut menacer les patrons. Communiste depuis toujours, Jean-Louis a rejoint Lutte ouvrière après avoir vu ce que les socialistes et ministres du Parti communiste français faisaient au pouvoir entre 1981 et 1984. Et Jean-Louis est de tous les combats, de toutes les manifestations, et aujourd'hui dans le combat électoral pour le camp des travailleurs. À côté de Jean-Louis, Pascal Rouget, tête de liste à Villeneuve-d'Ascq. Engagée politiquement à Lutte ouvrière alors qu'elle avait 20 ans, elle n'a jamais rien lâché de ses idées qu'elle continue à défendre dans cette campagne électorale. Avec deux autres camarades, elle a été conseillère municipale de 2001 à 2008 à Villeneuve-d'Ascq. Tous les trois, ils ont été les yeux et les oreilles des travailleurs, mais pas seulement. Ils ont aussi été la voix des travailleurs en défendant toujours leurs intérêts au sein du conseil municipal, notamment contre la privatisation des services municipaux utiles aux habitants. De par son métier, elle a été au contact d'étudiants étrangers demandeurs d'asile et elle est devenue militante auprès des étudiants sans papier à l'Université de Lille. À côté de Pascal. Christophe, et vas-y, présente-toi.
Alors, bon, je m'appelle Christophe Charlon et je conduis la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, à Tourcoing. J'ai été toute ma vie un travailleur. Jeune, je voulais être photographe, être libre et échapper à l'exploitation. Les rêves, hélas, ça ne nourrit pas. Alors j'ai dû aller travailler à l'usine, à contre-cœur. Car je n'ai jamais aimé qu'on me donne des ordres et qu'on me regarde de haut. En 1991, dans une usine Rank Xerox, j'ai rencontré des camarades de Lutte ouvrière. J'aimais leur attitude, leur façon d'aborder les problèmes et leur respect pour leurs collègues de travail. Avec eux, le jeune homme en colère que j'étais est devenu un militant. En 1999, l'usine allait fermer. Pendant plusieurs mois, j'ai appris à organiser une grève démocratique où les grévistes décident eux-mêmes. J'ai vu combien ma classe, celle des ouvriers, était forte et intelligente quand elle décidait de prendre son destin en main. C'est quelque chose qui m'a marqué à jamais. Après la fermeture de l'usine, j'ai fait comme de nombreux travailleurs, des années d'intérim où il faut la fermer pour avoir du boulot. En 2005, après une formation d'aide-soignant, j'ai été embauché à l'hôpital de Tourcoing. C'est le troisième hôpital public de la métropole, après le CHU et celui de Roubaix, et nous sommes 2500 à y travailler. Comme la société, l'hôpital, c'est une terre de contraste. D'un côté, une technologie de pointe, des techniques de soins innovantes, et de l'autre, une blanchisserie d'un autre siècle, des nids de poules dans les couloirs qui empruntent les brancardiers. Tous les jours, on se fatigue à trouver du matériel en état de fonctionner, que ce soit des lèvres-personnes, des tensiomètres, ou même simplement des draps et des serviettes. Tous les jours, on subit le manque d'effectifs, les plannings qui changent, les demandes pour faire des nuits ou des week-ends supplémentaires pour boucher les trous. Tout ça pourquoi ? Pour nourrir copieusement les big pharma et ne pas effrayer les banques pour qu'elles continuent à prêter des millions et à récolter les intérêts. Lors du Covid, on a dû se débrouiller, s'organiser, inventer pour parvenir à soigner alors que tout manquait. Se révolter aussi. Quelques semaines après le début de la crise sanitaire, nous étions plus d'une centaine à manifester dans l'hôpital contre le manque de matériel et des conditions de travail qui mettaient tout le monde en danger. Comme le disait alors une collègue, ne pas se laisser faire, ne pas courber la tête, c'est vital. Pour soigner nos hôpitaux et cette société malade, c'est le seul traitement disponible. Depuis, la situation s'est encore dégradée et l'hôpital voit ses budgets fondre au profit des budgets militaires. Cela n'empêche pas le gouvernement d'exiger que les hôpitaux soient prêts pour ce mois de mars à accueillir une centaine de blessés de guerre tous les jours pendant quelques mois. Nous ne pouvons pas laisser cette société aux mains de tels irresponsables. À l'hôpital comme ailleurs, ce sont les travailleurs qui font tout fonctionner et nous n'avons besoin de personne pour penser à notre place. C'est pourquoi je me présente à ces élections. Dimanche 15 mars, j'irai voter Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, et je vous invite à faire de même et à convaincre le maximum de travailleurs autour de vous à le faire. Et le 16 mars, eh bien, je continuerai, nous continuerons à nous battre au quotidien et à dénoncer cette société barbare.
Et maintenant, Corentine, qui conduit la liste aux côtés de Pierre Madelin, à Lille.
Bonsoir les camarades. Alors moi, c'est Corentine Collinet. Je travaille à la Poste, dans les tournées motorisées, les petits camions jaunes, vous avez déjà vu, dans lesquels on va chercher le courrier. La Poste, avant, c'était le courrier tous les jours. Quand on postait une lettre, elle arrivait le lendemain. Pour ceux qui y travaillaient, c'était l'assurance d'un emploi stable et plutôt populaire, avec l'image du facteur que tout le monde connaît. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, la Poste est devenue une entreprise qui doit dégager des bénéfices. Désormais, le courrier met jusqu'à 4 ou 5 jours pour arriver, et il n'y a plus que 2 tournées de distribution par semaine. Pour les postiers, les conditions de travail se sont largement dégradées. Fini l'emploi stable, de plus en plus de collègues sont en contrat précaire. Quant au salaire, ça peine plus que le SMIC à l'embauche et ça n'évolue pas beaucoup. Moi, au bout de 10 ans, je suis à peine au-dessus de 1 500 € par mois. Pourtant, la Poste dégage des bénéfices élevés. Plus d'1 milliard d'euros par an de profit. Et ça, c'est sur le dos des postiers. Avec des tournées toujours plus longues, une polyvalence forcée et une pression sur les objectifs commerciaux. En plus, la Poste, l'un des plus gros employeurs du pays, continue à augmenter la productivité en supprimant des positions de travail, en licenciant de plus en plus de postiers, sous prétexte qu'ils ont des inaptitudes physiques, et à recours à des travailleurs précaires. L'exploitation toujours plus dure, la précarité du travail, des salaires qui permettent à peine de vivre, un service public qui se dégrade, c'est ce que vivent bien des travailleurs dans tous les secteurs. Trouver un logement quand on a le SMIC, payer la voiture, parce que moi, par exemple, qui travaille dans une zone industrielle à l'équin, je suis quand même obligée d'avoir une voiture pour aller travailler, et toutes les autres dépenses de la vie, ça devient vraiment mission impossible. Alors, se présenter sur la liste de Lutte ouvrière, pour moi, c'est une évidence. Il faut dénoncer cette organisation sociale qui rend la vie des travailleurs infernale. Il faut que le monde du travail prenne les choses en main et impose de pouvoir vivre et vivre dignement. Donc, le 15 mars, votez pour des travailleurs comme vous, votez pour la lutte Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Merci.
Maintenant, Edith, avec qui je travaille tous les jours.
Alors, bonsoir. Voilà, je m'appelle Edith Duquesnois et je suis ouvrière chez Toyota et je conduis la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs pour la ville d'Onnaing. Alors, dans cette campagne, là, on voit tous les politiciens qui se lâchent sur l'insécurité. Comme si toujours plus de policiers municipaux, toujours plus de caméras de surveillance, ça pouvait arranger les choses. Plus de police, ça règle rien. Et aussi, ça provoque même des drames. Récemment, à Valenciennes, un policier municipal armé a tiré sur une personne qui les avait appelés à l'aide alors qu'elle était complètement déboussolée. En fait, l'insécurité, on peut en parler. Bien sûr, si on parle de l'angoisse d'être au chômage pour soi-même, pour ses enfants, et de ce que ça veut dire d'être sur un siège éjectable, même quand on a un CDI, plein de travailleurs et de travailleuses acceptent des conditions de travail de toujours de pire en pire par peur de perdre leur emploi. Et aussi, on parle de l'angoisse des fins de mois qui commencent de plus en plus tôt. De ne pas savoir comment payer ses factures, de craindre les pannes de voiture. Quand les politiciens parlent de sécurité dans leurs programmes électoraux, ils ne parlent jamais de la peur de l'avenir. celle de vivre dans un monde ravagé par les crises économiques, climatiques et les guerres. Samedi matin, on s'est réveillé avec le déclenchement des bombardements de l'État d'Israël et de l'État américain contre l'Iran. Après la guerre en Ukraine, le génocide à Gaza, c'est un pas de plus vers la guerre généralisée. Alors, comment imaginer que dans un monde pourri par le chômage et la misère, et avec des dirigeants qui n'ont que la guerre à offrir à la jeunesse, on puisse vivre en sécurité? Et à la tête de la société, il y a des milliardaires corrompus et cyniques qui ont fait fortune avec l'argent qu'ils ont volé sur notre travail et qui prospèrent sur la ruine de toute la population. Ils se vantent de pouvoir tout acheter pour assouvir leur soif de pouvoir et leur fantasme. Alors on peut regretter que ça ait une influence sur toutes les couches de la société. On peut aussi montrer du doigt les jeunes qui cherchent eux aussi l'argent facile des trafics en tout genre. Mais comment on peut dire à son enfant sans lui mentir? Il faut bien travailler pour s'en sortir. Parce que là, il y a un lien direct entre cette société capitaliste qui nous mène dans le chaos et la dégradation de toutes les relations sociales et la montée de la délinquance dans les quartiers populaires. Et dire que cela peut s'arranger avec des policiers municipaux et des caméras de surveillance, c'est se moquer du monde et c'est mentir ouvertement. Moi, enfant, j'ai vécu dans un quartier où il y avait des militants ouvriers, des hommes et des femmes qui s'organisaient. Il y avait les fêtes de quartier, les aides aux devoirs, une vie de quartier organisée par les travailleurs eux-mêmes, qui n'avaient pas besoin de matraques ni de taser. Et il manque ces militants ouvriers. Il en manque, et il manque des militants ouvriers qui ont à cœur de proposer à la jeunesse une autre perspective que la misère et la débrouille individuelle. Des militants qui ont à cœur de foutre en l'air cette société et qui, d'une manière ou d'une autre, transmettent aux générations suivantes que non, tout ce qu'on voit là, ça ne peut pas être l'avenir. Alors, à ceux qui pensent, comme nous, qu'une autre organisation sociale est possible, fraternelle, communiste, nous proposons de nous organiser consciemment pour nous débarrasser, pour débarrasser cette société capitaliste, d'en prendre les rênes et de la diriger. Car les travailleurs au pouvoir, c'est la seule chose que l'on n'ait jamais essayée.